Bonjour, bienvenue à vous. On fête les 220 ans de la naissance de l'écrivain Honoré de Balzac en Touraine, avec des festivités tout au long de l'année dans la région. On essaye de moins s'ennuyer en réunion grâce aux idées d'une start-up. Et enfin, on veut tout savoir de la libellule, marqueur du réchauffement climatique. Et ça commence une heure en France par l'actu de ce lundi 11 mars. Bonjour Denis Farou, bon retour à vous.
Bonjour Frédéric Le Tournier, ravi de vous retrouver, vous et vous tous.
Le procès de Bernard Tapie pour escroquerie s'est ouvert ce matin à Paris.
C'est toujours l'affaire du Crédit Lyonnais dont on parle depuis 20 ans, Nathalie Delpera.
Oui, là plus précisément les conditions dans lesquelles Bernard Tapie a obtenu le montage du tribunal arbitral qui lui a donné à l'époque 400 millions d'euros.
La crise du diesel s'est invitée à Bercy avec les constructeurs.
On va voir comment sortir du diesel et avec quelles conséquences, Mélodie Pépin.
Les conséquences, 15 000 emplois menacés et une des solutions serait de ne pas sortir du diesel justement.
On connaît l'emploi du temps des lycéens ce vendredi entre 16h et 18h.
Oui, ils vont débattre sur l'environnement à l'initiative du ministre Blanquer. Pourquoi vendredi, Valérie Barbe?
Eh bien parce que ce vendredi, c'est la marche mondiale des lycéens pour le climat.
On va regarder dans le rétroviseur du week-end sportif avec peu de réjouissance.
Vous voulez parler de la défaite du 15 de France?
Oui, mais pas seulement.
Alors, vous parlez sans doute de la rencontre des joueurs du PSG avec quelques centaines de leurs supporters pour présenter leurs excuses.
Mmh. Le vent de ces derniers jours s'est calmé.
Ça va mieux, les trains circulent à nouveau dans les Hauts-de-France avec parfois un peu de retard.
Bienvenue à tous dans Une Heure en France.
Une Heure en France, Frédéric Le Tournier, Denis Farou sur France Bleu.
L'une des 9 victimes françaises du crash du Boeing Ethiopian Airlines, c'est une Bretonne de 36 ans, originaire du Finistère. La jeune femme devait participer à l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement à Nairobi.
C'est jour de deuil à Addis Abeba et Nairobi, en Éthiopie et au Kenya. Les enquêteurs ont retrouvé les deux boîtes noires de l'appareil qui s'est écrasé avec ce bilan de 157 morts. Plusieurs pays ont décidé d'immobiliser les Boeing 727 MAX 8, l'Éthiopie en premier lieu, mais aussi la Chine et l'Indonésie.
Le procès de Bernard Tapie pour escroquerie a débuté à Paris et on est toujours dans l'affaire du Crédit Lyonnais qui occupe les prétoires depuis plus de 20 ans.
Cette fois, il s'agit de l'affaire de l'arbitrage controversé qui lui avait accordé plus de 400 millions d'euros pour solder son litige avec la banque, Nathalie Delpera.
Oui, et très exactement les conditions dans lesquelles cet arbitrage a été organisé équivalent à Bernard Tapie des accusations d'escroquerie et de détournement de fonds publics. Il est jugé avec 5 autres personnes, dont Stéphane Richard, alors directeur du cabinet de la ministre de l'économie, Christine Lagarde, lui, est jugé pour complicité. Un tribunal arbitral, c'est un tribunal privé utilisé dans le monde des affaires pour régler des litiges et faire des compromis sans passer par la case justice. Au moment où Bernard Tapie propose en 2007 d'en arriver à la médiation d'un tel tribunal, l'affaire est complètement enlisée.
2007, alors qu'est-ce qui s'est passé avant?
Eh bien, l'homme d'affaires, souvenez-vous, s'estime grugé par le Crédit Lyonnais. La banque, à l'époque organisme d'État, a réalisé une très importante plus-value sur la revente d'Adidas acheté à Bernard Tapie au moment où il est nommé ministre de la ville. Tapie réclame 900 millions d'euros de dédommagement. Une cour d'appel condamne l'État via un consortium, le CDR, à lui verser 135 millions. Mais la cour de cassation casse cet arrêt, donc plus un centime. C'est là où l'ancien patron, donc Bernard Tapie, propose de faire appel à un tribunal arbitral.
Et il avait évidemment un intérêt à cela.
Oui, forcément, pour essayer d'obtenir enfin de l'argent. Et c'est ce qu'on lui reproche aujourd'hui, c'est d'avoir manœuvré dans l'ombre, y compris auprès de l'Élysée, pour faire nommer des proches à lui dans ce tribunal. En premier lieu, son avocat, lui-même lié à un des deux autres arbitres. En 2008, Bernard Tapie empoche plus de 400 millions d'euros avec les intérêts. Depuis, il a été condamné à rembourser cette somme. Mais maintenant, il doit s'expliquer sur ses accusations d'avoir monté une opération qualifiée de frauduleuse, avec donc 5 autres prévenus. Sa défense, c'est lui, la victime d'escroquerie du Crédit Lyonnais.
C'était très clair, même si l'affaire est très compliquée. Merci Nathalie Delpera.
À quelques jours de la fin du grand débat national, La République En Marche a mis sur la table quelques-unes de ses propositions, résultant de 3500 contributions récoltées en ligne.
Et parmi elles, une qui n'est pas passée inaperçue, le retour de l'indexation des retraites sur l'inflation. En clair, les retraites augmenteraient comme le coût de la vie. Mais cette réindexation ne s'appliquerait que pour les pensions les plus modestes.
Christian Bourreau, le vice-président de la Confédération des retraités, voudrait savoir ce que veut dire modeste.
J'attends de voir ce que ça donne. Je dis que c'est un retour à quelque chose qui devrait être la règle sans qu'il y ait de discussion et que ça doit concerner l'ensemble des retraités sans qu'on s'amuse à diviser les retraités entre les pseudo-pauvres et puis les pseudo-riches, qui aboutit encore une fois, si vous voulez, à séparer les retraités. Il y a les bons, puis il y a les mauvais. Il y a les modestes et puis il y a les autres. Et c'est quoi un modeste? C'est 1200 euros? C'est 1400 euros? C'est 1600? C'est 2000 euros? Il faut qu'on arrête ce genre de choses. Il y a en France 16 millions de retraités. C'est les 16 millions de retraités qui sont paupérisés régulièrement année après année. Et donc, il faut arrêter et mettre un terme à toutes ces mesures de restriction, de non-indexation, de recul, de report, de gel. Il faut réindexer les pensions sur la base des prix. Point. Voilà.
Voilà, Christian Bourreau de la Confédération des retraités.
Brune Poirson a voulu rassurer ceux qui s'inquiétaient du report de la présentation de la loi sur l'énergie et se demandaient ce qu'allait advenir des centrales à charbon.
C'est toujours d'actualité, a dit ce matin la secrétaire d'État à la transition écologique. Les quatre dernières centrales fermeront bien d'ici la fin du quinquennat, même si ce n'est pas simple à réaliser.
Vous savez, il y a 1 million de personnes qui ont de l'électricité grâce... on va dire, même si c'est pas forcément le mot le plus approprié, mais grâce à ces 4 centrales à charbon. Donc c'est une décision qui n'est pas anodine, qui est très courageuse, qui est difficile aussi parce que derrière il y a des emplois, des personnes, des familles qui vivent du travail qui est effectué sur ces centrales à charbon. Donc vous voyez que c'est un texte qui est particulièrement ambitieux et non seulement il est ambitieux, mais en plus on se donne les moyens d'atteindre nos ambitions avec la fermeture de ces 4 centrales à charbon.
L'autre sujet du moment, c'est sortir du diesel. Les acteurs du secteur automobile étaient reçus à Bercy ce matin.
Ils demandent une aide de l'État pour cette mutation qui arrive plus vite que prévu. Il y a plein de questions en suspens, Mélodie Pépin, à commencer par comment sortir complètement du diesel et que représente l'industrie du diesel en France.
Alors on commence par le début, les chiffres. Le diesel, c'est 37 500 emplois, plus de 300 sites sur le territoire. 6 sont en situation critique aujourd'hui et une centaine très fragilisées. On peut citer l'usine Bosch de Rodez, les fonderies du Poitou ou encore l'américain Delphi à Blois.
Et ça fait combien d'emplois menacés ?
5500 emplois menacés directement, 15 000 d'ici 2030. Des chiffres qui nous viennent de l'Observatoire de la métallurgie.
Mais comment on en est arrivé là ?
Il y a eu l'affaire du Dieselgate et la politique anti-diesel, la prise de conscience écolo. Résultat, la dégringolade partout en Europe et surtout en France. On est passé de 70 à 36% de voitures diesel vendues en même pas 10 ans. Une chute que beaucoup d'acteurs reconnaissent ne pas avoir anticipée.
Alors voilà pour le diagnostic. Et maintenant, on fait quoi pour enrayer la chute ?
Eh bien, on demande de l'argent à l'État pour former les salariés, les reconvertir, pour produire des moteurs électrifiés, convertir aussi les lignes de production diesel en essence, par exemple.
Ça veut dire que c'est la mort du diesel ?
Eh bien, pas forcément, car une autre musique se joue aussi ce matin, redorer le blason du nouveau diesel, vendu comme plus propre, en théorie, avec des particules encore plus fines, en lui donnant la vignette critère 1, c'est demandé par les constructeurs. Attention au message contradictoire, prévient la ministre Brune Poirson. Mais c'est Bercy qui décide et il n'est pas contre.
Merci Mélodie Pépin.
Ce vendredi qui arrive est annoncé comme un jour de grève mondiale des élèves pour le climat, après des vendredis d'affilée de manifestations.
Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a annoncé ce matin que des débats sur l'environnement auront lieu vendredi dans tous les lycées de France, Valérie Barbe.
Oui, et c'est un peu finalement la réponse du berger à la bergère, ou plutôt du ministre de l'Éducation aux lycéens en grève pour le climat. Au départ, rappelons-nous, ce mouvement de grève scolaire le vendredi a été lancé par Greta Thunberg, une jeune ado suédoise. Le but est simple, que les élèves de chaque pays fassent pression sur leur gouvernement pour l'obliger à agir bien plus et bien plus fort contre le réchauffement climatique. Chez nous, la mobilisation n'a commencé que mi-février et encore assez timidement. Mais pour Jean-Michel Blanquer, son rôle, il l'a dit, ce n'est pas d'appeler les élèves à participer à ces grèves. D'où l'organisation de ces débats, donc ce vendredi entre 16 et 18 heures, dans tous les lycées de France, pour proposer du concret aux jeunes qui veulent s'engager pour le climat. La suite, ce sera le 5 avril. Le ministre va réunir le Conseil national de la vie lycéenne pour faire la synthèse et en tirer des mesures concrète. Finalement, c'est un petit peu comme un certain grand débat, mais spécial jeunesse, un débat vert et pas jaune, vert comme l'espoir.
Mais c'est bien dit. Mais à 16h quand même. Hein.
16h, un vendredi, nous sommes d'accord. Il faut qu'ils soient motivés, nos petits jeunes.
Merci Valérie Barbe.
13h09 sur France Bleu, la suite du Nord en France. On va un petit peu remuer le couteau dans la plaie du rugby et du foot. Le rugby avec la nouvelle défaite du 15 de France. Le football avec les excuses des joueurs du PSG à leurs supporters après leur élimination en Ligue des Champions. Mais avant, c'est un témoignage très fort d'un médecin que nous allons entendre, un médecin du Loiret qui a du mal à se remettre d'une agression à une période où elles sont en hausse.
Nema Bouraki est médecin généraliste installé dans une maison de santé à Orléans. Depuis qu'elle est arrivée dans le département, il y a une dizaine d'années, elle a subi plusieurs agressions. Vous l'avez rencontrée, Cyril Ardo.
L'une des affaires qui a le plus marqué la docteure Nemabura, qui remonte à quelques années.
Elle est venue pour son enfant, une fièvre, c'était un hiver, hein, donc pas de problème. La patiente qui était juste avant elle, je devais lui annoncer qu'elle avait un cancer du sein. Ça m'a pris une heure, donc elle est allée à plusieurs reprises voir ma secrétaire pour lui dire que j'étais très en retard.
Lors de la consultation, la patiente lui reproche de nouveau le retard. La docteure Nemabura qui lui explique donc la situation et rapidement le ton monte.
Je pense que si un jour il vous arrive quelque chose de grave, vous apprécieriez que je reste avec vous le temps nécessaire. Si vous trouvez que le temps est long, vous changez de médecin traitant. Elle m'a dit, c'est très bien madame, la prochaine fois je change de médecin traitant, mais en attendant, vous me voyez. Je lui dis non, on change tout de suite de médecin traitant madame. Vous partez maintenant. Donc je me lève et je me ramasse un coup de poing.
Nemabura qui porte plainte et obtient gain de cause, mais aujourd'hui elle reste très marquée par cette affaire et toutes les autres aussi. Les insultes, très fréquentes, les incivilités, une fois on a même mis feu à sa porte.
Lorsque vous faites agresser, il vous faut un certain temps pour vous en mettre. Pour les consultations suivantes, il faut à peu près une à deux heures pour évacuer un peu. Et puis après, avec le temps, c'est compliqué. Dès qu'il y a un patient qui hausse la voix, vous vous dites ça va partir à nouveau en cacahuète. Que je ne me sens pas capable à nouveau de regérer ça.
Cyril Ardaud, des médecins qui ont décidé de rompre le silence et de prendre la parole, c'est à retrouver sur francebleu.fr avec France Bleu Orléans.
Et la nouvelle journée de Ligue 1 était profitable à Lille et qui a conforté sa deuxième place au classement après sa victoire à Saint-Etienne et à Marseille qui recolle à la tête.
Le PSG n'a pas joué à Nantes pour cause de manifestations de gilets jaunes et s'est contenté d'un entraînement particulier, celui des excuses auprès de ses supporters après son élimination en Ligue des Champions. Un moment, comment dire, tendu, Faustine Moiran.
Il faut dire que les 300 supporters autorisés à rentrer dans le Parc des Princes ont attendu une heure l'arrivée très en retard des joueurs dans le stade, car ils étaient d'abord avec les leaders du COP en petit comité. Finalement, les joueurs du PSG sont entrés sur la pelouse, nous ont raconté plusieurs supporters, sous les huées, les bombes et les fumigènes. Ils sont venus jusqu'au pied des tribunes et Thiago Silva a pris la parole. Il s'est excusé au nom du groupe, a rappelé que la Ligue des Champions est leur rêve à eux aussi, que personnellement, il ne dort plus depuis mercredi, puis c'est Marquinhos qui a pris le micro, demandant aux supporters de rester unis, disant que l'équipe a besoin d'eux pour la fin de saison. Des excuses courageuses vu l'énervement en tribune, mais qui n'ont pas convaincu. Les joueurs sont sortis sous les insultes.
C'était plus calme après la nouvelle déconvenue du 15 de France en Irlande hier, même si les supporters qui se déplacent ou alors sont devant leur télé commencent à trouver le temps long.
Pourquoi vous me regardez ?
Non mais moi aussi.
Il va falloir se faire une raison, les Bleus ne jouent plus dans la cour des grands, Jérôme Val.
C'est suffisamment rare dans un match international de ce calibre pour le noter. En première période, les Français n'ont passé que 10% du temps dans le camp irlandais, deux petites secondes seulement dans les 22 mètres adverses. Une statistique qui démontre l'impuissance des Bleus sur ce match et plus généralement l'écart qui les sépare encore des grandes nations comme l'Angleterre il y a un mois et l'Irlande hier, le capitaine Guillaume Guirad.
C'est quand même assez dur à avaler, mais on sait que ces équipes-là sont largement au-dessus de nous en ce moment, donc il faut que vraiment on se retrousse les manches sur les mois à venir, mais il va falloir qu'on fasse beaucoup plus forcément.
C'est déjà la 11e défaite du 15 de France depuis le début de 2018. La plupart des joueurs de ce groupe ont connu plus de revers que de victoires, et c'est sur ce champ de ruines que doit se construire un avenir, constate le troisième ligne, Arthur Ituria.
On est une équipe très très jeune, il faut être un minimum indulgent. Tout le monde réclamait des jeunes, ils sont là aujourd'hui et il faut construire avec eux. Il y aura d'autres défaites, ça prendra peut-être plusieurs années, mais ça débouchera forcément sur quelque chose de positif un jour ou l'autre.
Mais le temps presse, la Coupe du Monde c'est dans 7 mois, il ne reste plus qu'un match officiel pour bâtir un groupe compétitif. Ce sera face à l'Italie samedi prochain en clôture de ce tournoi.
La balade irlandaise et la déroute française en rugby, Jérôme Val.
Oui, mais on n'oublie pas que le 15 de France féminin a lui écrasé l'Irlande et deuxième au classement destination derrière l'Angleterre.
Un super match, un récital des Françaises. Vraiment, on a plaisir à les regarder jouer.
Premier lancé de l'Auvergnate, Caroline Thomas. Le fond de touche parfait, la prise de Gaëlle Hermé et tous ses partenaires autour d'elle. Ça se structure, ça avance. Elles sont dans l'embûche, les Françaises. Et l'essai accordé par l'arbitre anglais. Et c'est le premier essai des Françaises dès la troisième minute. Elle donne le ton ici à Donnybrook.
Voilà, pour rester sur une bonne note du week-end sportif, Jean Abeillou aux commentaires et beaucoup d'autres essais ont suivi avec ce 15 de France féminin. Jetez un œil dimanche prochain sur Italie-France à 14h30. Je vous assure que vous ne serez pas déçus. Votre neveu non plus.
Ah, c'est contrarié ce week-end.
Italie-France chez les garçons qui ne vont pas bien, c'est samedi à 13h30.
Il y avait du monde hier au cimetière de Damenois dans l'Essonne.
On a réinstallé la statue de bronze de Claude François qui avait besoin d'être restaurée dans le village où il a été inhumé en 1978.
Mais Claude François est mort il y a 41 ans aujourd'hui.
J'y pense et puis j'oublie. J'y pense surtout quand je suis seul la nuit. Et quand ton souvenir revient me faire souffrir, très vite j'y pense et puis j'oublie.
N'ayez crainte, Claude François revient dans un instant avec une chanson populaire et dans la foulée, on va aller en Touraine.
Sur les traces d'Honoré de Balzac, on va aussi au pays des libellules, le temps de la météo du jour et du message de la grippe, qui est toujours là.